Conclusion. Dans son histoire de la philosophie politique, Paul Janet, après avoir exposé la théorie de Montesquieu, se plaint à juste titre que la plupart de ses commentateurs se soient uniquement proposés de dénoncer les erreurs qu'il a commises, et il ajoute qu'il aurait beaucoup mieux valu, et qu'il eût été plus équitable, de faire voir en détail la vaste étendue et l'obscurité du sujet choisi par lui, et la force d'esprit avec laquelle il s'en est rendu maître. C'est ce que nous avons essayé de faire. Les opinions de Montesquieu sur les questions de détail traitées dans son livre, nous les avons laissées de côté, et nous n'avons insisté que sur ce qui nous paraît être son principal mérite. Expliquons-nous. Bien qu'il y ait toujours quelque chose d'inexact à faire remonter la naissance d'une science à tel ou tel auteur, toute science se constitue à l'aide d'apports ininterrompus, et il est difficile de dire à quel instant elle a commencé à exister. Il est certain cependant que c'est chez Montesquieu que, pour la première fois, se trouvent établis les principes fondamentaux de la science sociale. Ce n'est pas sans doute qu'il les ait énoncés en termes exprès. Il ne philosophe guère sur les conditions de la science qu'il inaugure. Mais ces principes et ces conditions se trouvent au fond de sa doctrine, et il n'est pas difficile de les apercevoir et de les mettre en lumière. On a vu ci-dessus quels ils sont. Non seulement Montesquieu a compris que les choses sociales sont objets de science, mais il a contribué à établir les notions clés indispensables à la constitution de cette science. Ces notions sont au nombre de deux, la notion de type et la notion de loi. La première apparaît sans aucun doute dans les livres de Montesquieu. Il montre en effet que non seulement la constitution du pouvoir souverain, mais aussi la vie sociale tout entière diffère selon les sociétés, et que pourtant ces formes différentes sont telles qu'on peut les rapprocher. C'était la condition nécessaire pour qu'il fût possible de distinguer des types et des espèces, car il ne suffit pas que les sociétés présentent d'un côté ou de l'autre certaines similitudes. Il faut que leur structure et leur vie puissent être comparées dans leur totalité. Disons plus. Montesquieu ne s'est pas contenté de poser les principes. Il s'en est servi avec bonheur. La classification qu'il a esquissée exprime, non sans quelque vérité, la répartition même des choses. Il se trompe cependant sur deux points. En premier lieu, c'est à tort qu'il pose que les formes sociales résultent des formes de la souveraineté et peuvent se définir par là. D'autre part, il admet qu'un des types qu'il distingue, le gouvernement despotique, a par lui-même quelque chose d'anormal. Ce qui est incompatible avec la nature d'un type, car chaque type possède sa perfection propre qui, compte tenu des conditions de temps et de lieu auxquelles il répond, est égale à celle des autres. Quant à la notion de loi, il était plus difficile de la transporter les autres sciences où elle existait déjà à la nôtre. Dans toutes les sciences, la notion de type apparaît avant celle de loi, parce que l'esprit humain la conçoit plus aisément. Il suffit de jeter les yeux sur les choses pour y remarquer certaines ressemblances et différences. Mais ces rapports déterminés que nous appelons des lois, étant plus proches de la nature des choses, se trouvent cachés dans son sein. Un voile les recouvre qu'il faut commencer par écarter pour pouvoir les atteindre et les mettre en lumière. En ce qui concerne particulièrement la science sociale, il y avait certaines difficultés spéciales résultant de la nature de la vie sociale elle-même. Celle-ci est si mobile, si diverse et si riche de formes variées qu'elle ne me semble pas pouvoir se ramener à des lois déterminées et immuables. Ajoutons que les hommes ne se croient pas volontiers liés par la même nécessité que les autres réalités de la nature. Montesquieu, cependant, en dépit de l'apparence des choses, affirme qu'il existe dans les choses sociales un ordre fixe et nécessaire. Il nie que les sociétés aient été organisées selon la fantaisie de l'homme et que leur histoire dépende de causes fortuites. Il tient pour assurer qu'il existe des lois gouvernant ce domaine de l'univers. Mais il les conçoit de façon confuse. Elles n'expriment pas, selon lui, comment la nature de la société engendre les institutions sociales, mais ce que sont les institutions qu'exige cette nature de la société, comme si leur cause efficiente devait être cherchée dans la seule volonté du législateur. De plus, Montesquieu donne ce nom de loi à des rapports entre les notions plutôt qu'entre les choses. Sans doute, ce sont celles que la société, pour peu qu'elle soit fidèle à sa nature, observe nécessairement. Mais elle possède la faculté de s'en écarter. Toutefois, sa science sociale ne dégénère pas en une pure dialectique parce qu'il comprend que ce qui est rationnel est précisément ce qui existe le plus souvent en réalité. Cette logique idéale est donc aussi en partie dans les choses. Mais il existe des exceptions qui introduisent quelque équivoque dans cette notion. Dissiper cet équivoque, c'est ce qu'a cherché avant tout la science sociale après Montesquieu. Elle ne pouvait en effet progresser davantage tant qu'on n'avait pas établi que les lois des sociétés ne sont pas différentes de celles qui régissent le reste de la nature et que la méthode qui sert à les découvrir n'est pas autre que celle des autres sciences. Ce sera la contribution d'Auguste Comte à cette science. Il éliminera de la notion de loi tous les éléments étrangers qui jusque-là la faussaient, et il revendiquera, comme il est juste, pour la méthode inductive, la première place. C'est alors que notre science prendra conscience et de son but et de sa méthode. C'est alors que toutes les bases nécessaires à son édification se trouveront préparées. Notre opuscule permettra de juger quelle a été dans cette préparation la part de Montesquieu.